Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Nous sommes assemblés aujourd'hui pour une sainte convocation. Comme nous l'avons lu plusieurs fois ces quelques derniers jours, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Nous sommes aujourd'hui le 7e jour. Déjà, le temps passe vite, n'est-ce pas? Nous avons également lu plusieurs fois des passages, comme 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, où il est également précisé que nous devons célébrer la fête des pains sans levain, comme Paul le faisait à environ 30 ans après la crucifixion et la résurrection de Christ, et comme le faisait l'Église du Nouveau Testament. Ces 7 derniers jours ont servi à commémorer l'exode de nos ancêtres, les enfants d'Israël, hors d'Égypte, et la délivrance miraculeuse que l'Éternel leur accorda. Ils ont aussi servi à commémorer l'échec définitif du péché dans l'univers, et l'échec d'une voie qui ne mène qu'à la destruction, au malheur, à la souffrance, à la corruption. Ils ont aussi servi à commémorer un début de parcours spirituel, rendu possible grâce à Christ, grâce auquel nous sommes devenus des temples spirituels, abritant le Saint-Esprit. Ils ont servi à commémorer le fait que nous devons, certes, éliminer le levain spirituel, le péché de nos vies, mais aussi combler ce vide par la nature d'amour, de pureté et de perfection de notre Père Céleste, avec qui nous sommes destinés à devenir un. Ils nous ont servi ces jours à réévaluer notre degré de conversion, notre degré de repentir, et à mieux effectuer notre bilan spirituel. Lors de la Pâque, nous avons renouvelé notre engagement à faire tout notre possible pour vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, à continuer à lutter contre notre nature humaine, pour implanter fermement dans nos esprits les pensées de Christ. Ils nous ont rappelé que lorsque nous péchons, nous sommes spirituellement non vêtus, nus. J'espère que ces 7 jours des pains sans levain vous auront été profitables, édifiants, révélateurs, enrichissants. Ils ont constitué la première étape dans la reconstitution annuelle de notre cheminement spirituel vers le royaume. Il y a environ 3500 ans, Dieu faisait sortir son peuple d'Égypte avec fracas. Pharaon, le despote égyptien, animé d'une obstination satanique, avait tout fait pour empêcher le peuple de partir. Mais l'Éternel règne suprême sur le règne des hommes. Et l'Éternel avait décidé qu'il était temps de délivrer Israël. Et cela, le cruel bourreau ne pouvait absolument rien faire pour l'en empêcher. Exode chapitre 12, verset 37. Exode chapitre 12 et le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, à environ 32 kilomètres de Ramsès, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, en hébreu « Geber », homme fort ou en âge de porter les armes, sans les enfants, soit une multitude d'au moins 3 millions de personnes, quand on compte les femmes, les enfants, les vieillards et tous les non-israélites qui étaient venus se joindre à la foule. Verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout des 430 ans, le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Et par leurs descendants, nous sommes les descendants. Quelques semaines plus tard, l'Éternel avait dit à Moïse de rappeler aux enfants d'Israël les fêtes qu'ils devaient observer, leur rappeler, eux et leurs descendants, nous y compris, afin d'entreprendre avec succès le périple qu'il avait prévu pour eux. La première partie de ce périple était la suivante, Lévitique 23, Lévitique chapitre 23 et le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel. » Remarquez bien les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Mes fêtes. Il s'agit des fêtes de l'Éternel. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. La première des fêtes divines, en quelque sorte, c'est le sabbat, c'est une fête qui revient toutes les semaines. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, nous sommes dans ce mois, évidemment le calendrier hébreu, pas le calendrier grégorien ou romain. Mais le premier jour, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel que nous avons observée. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, c'est-à-dire que les pains que vous mangerez pendant cette semaine doivent être des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Nous n'offrons plus de sacrifices sous la nouvelle alliance, offrant des sacrifices spirituels. Et Christ, le sacrifice ultime, ayant remplacé tous les sacrifices. Et le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'était donc là le début du cheminement. Aujourd'hui marque le 7e jour de la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, et même un peu plus selon les obligations modernes que nous avons, imposées par notre monde moderne, nos demeures ont été privées de levain. Dans la Bible, le chiffre 7 est généralement associé à l'idée d'achèvement dans la perfection. Je répète, achèvement dans la perfection. Nous avons vu que le levain symbolise le péché. Christ, par la bouche de l'apôtre Paul, nous a dit ceci. Et nous avons lu cela. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. C'est Paul qui parle 30 années après la crucifixion et la résurrection de Christ. Célébrons donc la fête, nouvelle alliance. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous vous souvenez de ce passage, nous l'avons lu probablement une quantité de fois pendant ces 7 jours. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. 7 jours de pains sans levain, parce que nous nous dirigeons vers la perfection, étant devenu, comme l'a écrit Paul, le temple du Saint-Esprit. Et parce que le levain, le péché, doit être totalement éliminé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je viens de faire une déclaration qui peut en surprendre quelques-uns. Mais voici ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. Quelque chose qui a beaucoup à faire avec cette fête également. Avec l'élimination du péché de nos vies. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Un temple glorifie une divinité. Notre temple glorifie Dieu. Cela est très significatif. En effet, avant notre conversion, nous étions des gens du dehors, en quelque sorte. Mais à présent, nous sommes de la maison de Dieu. Cela, Paul l'a fait remarquer à nos frères et sœurs d'Éphèse, vivant au premier siècle. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2 et le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Bon, même si nous étions des Israélites avant que Dieu nous appelle, nous étions des étrangers. Nous ne faisions pas partie de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Alors pour nous, ce passage s'applique aussi, pour ceux qui sont de souche israélite. Ainsi donc, et il s'adressait à des Éphésiens, une église qui était essentiellement formée de gentils ou de païens, eux, il leur disait, vous n'êtes plus des étrangers. Mais doublement, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voyez à nouveau ce thème du temple qui revient. Nous sommes un temple saint. Nous sommes édifiés pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation, un peu une façon différente de l'exprimer, mais une habitation de Dieu en esprit. Paul leur fit savoir, à eux qui vivaient à Éphèse, où se dressait le temple de la déesse Diane, Artémis en grec, qu'il existe en fait un temple bien plus magnifique et éternel, qui est le temple du Dieu vivant. Et non seulement cela, mais aussi qu'il faisait dorénavant partie de ce temple divin, parfait et éternel. La fête des pains sans levain a beaucoup à faire avec notre purification de tout levain spirituel, pour devenir des temples saints de l'éternel. Et Paul a également parlé d'un véritable dépouillement nous concernant. Reportons-nous à Colossiens, chapitre 3 et le verset 9. Colossiens, chapitre 3 et le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Intéressant que Paul y dit « Ne mentez pas ». Le mensonge est quasiment omniprésent dans ce monde. On y trouve beaucoup de fausseté, de déception, de subterfuge, de duperie. Bref, le levain, le péché. Ce monde est plein de levain, de péché. L'élimination du péché de nos vies n'est que la première étape. Nous devons à présent être régénérés. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Voilà notre destinée. Un héritage qui nous est réservé dans les cieux, comme le dit Pierre ici. Christ parlait aussi du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Péché consistant à pratiquer le contraire de ce que l'on prêche. Intéressant, n'est-ce pas? Humainement parlant, c'est un peu notre problème à nous aussi, parce que souvent nous disons que nous allons faire quelque chose, mais nous n'avons pas même toujours la force de faire ce quelque chose. Bon, nous ne sommes pas réellement des hypocrites dans le sens que nous ne cherchons pas à faire autre chose, mais finalement, il y a un peu de mensonge encore là, n'est-ce pas? Nous sommes incapables d'éliminer le péché de nos vies, de nous-mêmes. Si nous sommes sans levain ou sans péché, c'est parce que, comme l'a précisé Paul, nous sommes une pâte nouvelle, étant sans levain, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5:7. C'est grâce à Christ que nous sommes justifiés devant Dieu et considérés parfaits tant que nous sommes sous la grâce, tant que nous sommes sous la grâce. Tant que nous nous repentons sincèrement de nos péchés et implorons Dieu de nous pardonner quand nous fautons et faisons tout notre possible pour ne plus pécher. Notre ultime destinée est de revêtir l'homme nouveau, comme l'a dit Paul dans Éphésiens 4:24. C'est à cela que nous avons été appelés. Et l'homme nouveau sera en parfaite union avec son Créateur. Revêtir l'homme nouveau est un processus qui prend du temps. Le péché doit être totalement éliminé. Et nous devons revêtir l'homme nouveau, passer du physique au spirituel, être transformés en des êtres spirituels, ne pouvant plus pécher. Un jour, vous et moi, nous aurons une nature telle que nous ne pourrons plus pécher. Dieu va nous donner un corps spirituel et il permettra que nous ne puissions plus pécher. Oh, que j'attends ce jour. J'espère que vous aussi, n'est-ce pas? Christ est ressuscité des morts afin que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, comme le dit Paul dans Romains 6:4. Éliminer le péché de nos vies, et totalement, parfaitement, cela prend du temps, de gros efforts, c'est un parcours, c'est un cheminement. Un cheminement qui ressemble un peu à celui des enfants d'Israël, lors de la prise de Jéricho, qui, d'après ce que nous savons, eut lieu lors des jours des pains sans levain. L'Éternel avait dit à Josué que le peuple fasse pendant 7 jours le tour de la ville. Les 6 premiers jours, il devait faire le tour de Jéricho une seule fois. 7 sacrificateurs sonnant de la trompette devant l'arche, et le peuple devait garder le silence. Le 7e jour, ils avaient fait 7 fois la ville, le tour de la ville. La 7e fois, quand Josué avait dit au peuple de crier, le peuple s'était mis à crier et les murailles de la ville s'étaient écroulées. Pendant 6 jours, le peuple devait se taire. Même chose le 7e jour, pendant les 6 premiers tours de la ville. Ça devait être difficile. Cette histoire fascinante est relatée dans Josué 6. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants d'Israël avaient un parcours à faire. Et ce qui devait être encore plus difficile, probablement sous les rires et les moqueries des habitants de Jéricho, c'était qu'ils devaient garder la bouche fermée. Ils devaient garder le silence. Simplement faire une seule fois le tour de la ville pendant 6 jours, puis rentrer au camp sans rien dire et sans rien faire d'autre. Faire 7 fois le tour de la ville le 7e jour, mais le 7e tour, au signal donné, se mettre à crier et les murailles tombèrent. Israël avait un parcours à suivre. Nous aussi. Notre première étape dans notre cheminement chrétien est l'élimination du péché, rendu possible grâce à Christ, grâce à la Pâque. Nous devons maintenant remplacer le péché par le Saint-Esprit, ce qui représente la deuxième étape, en quelque sorte, de notre cheminement chrétien. Et la présence en nous de cet Esprit divin, très saint, fait de nous, comme je le disais plus haut, des temples sacrés. Voilà donc notre prochaine étape, l'obtention d'une puissance merveilleuse et extraordinaire qui peut nous permettre de demeurer sans péché, sans levain spirituel, et devenir des temples de l'Éternel abritant, pour commencer, un peu de sa gloire, puis pleinement lorsque nous serons changés en esprit. Si, physiquement parlant, Israël, en 1487 avant notre ère, quitta l'Égypte en direction de la terre promise, en fait, spirituellement parlant, il ne quitta jamais le pays du péché. Il suffit de lire leur histoire pour s'en convaincre. Physiquement, ils quittèrent l'Égypte, mais spirituellement, ils emmenèrent avec eux l'Égypte. Ils ne cessèrent de revenir en arrière, ils ne firent pas confiance à l'Éternel. Pourtant, chaque être humain ayant vécu devra tôt ou tard abandonner l'Égypte spirituelle, renoncer au péché. C'est là notre destinée. Combien de temps a-t-il fallu à Israël pour atteindre la mer Rouge, le golfe d'Aqaba, pour être symboliquement baptisé? Je dis symboliquement baptisé, parce que c'est ce qu'a déclaré Paul dans 1 Corinthiens 10, 12. Vous vous souvenez du passage. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Combien de temps a-t-il fallu à Israël pour atteindre la mer Rouge? La Bible ne le précise pas. Mais quand on sait qu'entre Ramsès et la mer Rouge, il y a environ 350 kilomètres, et quand on sait qu'un petit marcheur parcourt au moins 3,2 km par heure, cela a dû leur prendre environ 109 heures, 109 heures environ, pour parcourir cette distance. Combien d'heures par jour marchèrent-ils? Dans Exode 13, 21, il est écrit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Combien d'heures par jour marchaient-ils? Si on calcule qu'ils marchaient seulement 8 heures par jour, ce qui est très conservateur, il leur fallut 13 jours. Et comme il y avait des sabbats et deux jours saints entre-temps, ajoutons au moins 4 jours, ce qui nous donne 17 jours. Ils étaient partis de nuit, le soir correspondant à notre soirée mémorable, le 15e jour du premier mois, et ils avaient parcouru au moins 32 kilomètres ce jour-là, de Ramsès à Sukkot. Ce premier jour des pains sans levain, pour eux, n'avait donc pas été de tout repos. Nous avons eu la soirée mémorable, nous sommes réjouis, nous étions à prendre un bon repas ensemble, mais pour les enfants d'Israël, ce n'était pas réellement une sinécure. C'était difficile, et ils fuyaient. Ils avaient peur. Incidemment, d'après Paul, le vrai Sinaï se trouve en Arabie, Galates 4, 25. L'historien Joseph et plusieurs autres auteurs sont du même avis, ainsi que plusieurs experts modernes. Et personnellement, je suis du même avis, pour un certain nombre de raisons que je ne développerai pas aujourd'hui, faute de temps, mais le vrai mont Sinaï se trouve, d'après la Bible, en Arabie, et non dans la péninsule faussement appelée aujourd'hui la péninsule du Sinaï. En ce qui me concerne, le Sinaï, le vrai Sinaï, correspond au Jabal al-Lars moderne, mais cela importe peu, cela importe peu, votre salut n'en dépend pas, et le mien non plus. D'après Exode 16, les enfants d'Israël étaient entre Élim et le mont Sinaï le 15e jour du deuxième mois. 45 jours? 45 jours? D'après Exode 19:1, ils arrivèrent au mont Sinaï le troisième mois après avoir quitté l'Égypte. Pas nécessairement 90 jours, mais s'ils étaient partis vers la fin du premier mois, étaient arrivés le troisième mois, il est possible qu'ils se soient trouvés au mont Sinaï pour la Pentecôte, 50 jours à partir du sabbat se trouvant pendant les pains sans levain. Bref, si vous aimez les chiffres, je vous laisse le soin de vous amuser un peu et de faire vos propres calculs. Pourquoi 7 jours des pains sans levain? Revenons à nos moutons. Pourquoi 7 jours des pains sans levain? Parce que Dieu voulait que nous comprenions bien que pour vivre sans péché, pour éliminer totalement le péché, le levain, il faut effectuer un parcours spirituel, un certain cheminement, et que cela requiert de gros efforts, physiques, mentaux, et spirituel. Israël allait être symboliquement baptisé au travers de la mer, ensevelissant son passé dans le pays du péché, en route pour la montagne de Dieu, le Sinaï. Il n'allait tout compte fait jamais arriver à destination, même s'ils finirent par atteindre le mont Sinaï vers la Pentecôte, physiquement parlant. J'espère que vous me suivez. Ce que je vous dis est très important. Israël quitta l'Égypte physiquement, mais pas spirituellement. Le cœur n'y était pas. Pour vous et moi, il en va tout autrement. Nous avons quitté le pays du péché. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. Le cœur est impliqué. Et notre cheminement entre la fête des pains sans levain et la Pentecôte est très réel pour nous. Car nous avons le Saint-Esprit accordé aux prémices et dont l'effusion est symbolisée par la fête des semaines, la Pentecôte. Si nous prenons au sérieux notre appel, nous allons dans les jours, les mois et les semaines qui suivent tout faire pour éliminer le levain de nos vies, le levain spirituel qu'il peut encore y avoir en nous. Quels sont les défauts, les péchés qui entartrent si facilement nos vies? Il est fort utile de dresser une liste des défauts et des péchés les plus connus et nous demander quels sont ceux qui nous donnent encore du fil à retordre. Nous demander quel genre de levain a encore besoin d'être éliminé de nous. Sommes-nous abrupts, acerbes, agressifs, aigris, amorphes, arbitraires, arrivistes, arrogants, asocial, autoritaire, avare? Sommes-nous bagarreurs, baratineurs, bavards, blasés, blessants, bornés, boudeurs, brouillons, bruts? Réfléchissez à tous ces défauts, je parle de défauts pour le moment. Sommes-nous calculateurs, capricieux, crassants, caustiques, cérémonieux, chicaneurs, coléreux, critiqueurs, cruels, défaitistes, dépensiers, désobéissants, désinvoltes, égoïstes, envieux, excessifs, familiers, grossiers, humiliants, hypocrites? Sommes-nous impatients, imprudents, impulsifs, inattentifs, incompétents, inconstants, incultes, indécis, indépendants, indiscrets, individualistes, insouciants? Il y a une raison pour laquelle je vous fais passer au travers de cette liste. Réfléchissons lorsque nous écoutons chacun d'eux. Sommes-nous insouciants? Sommes-nous instables? Sommes-nous intolérants? Intransigeants? Irrespectueux? Irresponsables? Jaloux? Laxistes? Légers? Lourds? Mal élevés? Maniaques? Manipulateurs? Méchants, médisants, méfiants, mégalomanes, menteurs? C'est pas tout, j'en ai encore. Méprisants, sommes-nous méprisants, sommes-nous mesquins, sommes-nous misogynes, mous, négligents, obstinés, obtus, opiniâtres, orgueilleux, paresseux, passifs, pédants, pessimistes, peureux, pointilleux, prétentieux, procrastinateurs, qui sait tout. Il y a toujours des gens qui savent tout. Racistes, sommes-nous racistes? Râleurs, rancuniers, revanchards, rigides, rouspéteurs, sans gêne, soupçonneux, sournois, superficiels, susceptibles, tatillants, têtus, trop curieux, vaniteux, vulgaires. Et nous nous arrêterons là pour les défauts. Mais ces défauts représentent divers aspects du levain, du péché, que nous nous efforçons d'éliminer de nos vies. En les identifiant et en étant conscients d'eux, nous sommes plus à même de les combattre et de parachever l'élimination du levain spirituel de nos vies. Ne nous y trompons pas, éliminer le péché prend généralement toute une vie. Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 et le verset 17. Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, a dit Paul. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, pas la rivalité, mais les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, pluriel à nouveau, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. J'aime beaucoup ce petit morceau de phrase. Etc., etc., etc. Ce n'est pas fini, je n'ai fait que vous dresser le début de la liste. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Rappelez-vous que nous venons, comme l'a dit Paul dans 1 Corinthiens 5, 8, de voir qu'il faut éliminer le vieux levain de la malice et de la méchanceté. Qui résume, ces deux mots résument en quelque sorte le péché. Mais nous devons aussi remplacer le vieux levain par le levain de la pureté et de la vérité qui symbolise la voie divine et le Saint-Esprit. Et remplacer le vieux levain qui gonfle ou enfle ou corrompt pour ne produire que du mal et le remplacer par du bon levain, spirituel cette fois, qui multiplie le bien de manière exponentielle, pourrait-on dire, grâce au Saint-Esprit et à la nature divine résidant en nous, résidant dans les temples que nous sommes. Nous devons revêtir des qualités. Et je vais encore vous donner une liste. C'est peut-être un peu long, mais ça vaut la peine. Sommes-nous, à nouveau, nous voulons avoir ces qualités. Sommes-nous accessibles, accueillants, aidants, aimables, altruistes, amusants, apaisants, résilients, appliqués, attachants, attentifs, attentionnés, avenants, bienveillant, calme, chaleureux, charismatique, charmant, communicatif, compréhensif, conciliant, confiant, consciencieux. À chacun de ces mots, pensez, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que c'est moi? Sommes-nous coopératifs, courageux, courtois, cultivé, débrouillard, décidé, délicat, dévoué, digne de confiance, discipliné, discret, disponible? Sommes-nous doux, sommes-nous droits, dynamiques, à l'écoute, efficace, éloquent, empathique, encourageant, endurant, énergique. Sommes-nous engagés, enthousiastes, entreprenants, équitables? Avons-nous l'esprit d'équipe? Sommes-nous exemplaires, fermes, fidèles, fins, flexibles, forts, francs, généreux, gentils, honnêtes, humbles, impliqués, indulgents, inspirés, intègres, joviales? Tout ça, ce sont des qualités que nous recherchons. Sommes-nous justes, sommes-nous loyales, lucides, maîtres de nous-mêmes, modestes, motivés, objectifs, optimistes, ordonnés, ouverts d'esprit, pacificateurs, paisibles, ça se tient les deux, patients, persévérants, polis, ponctuels, pondérés, posés, positifs, prévenants, prévoyants, productifs, protecteurs, prudents, raisonnables. Sommes-nous rassurants, rationnels, réalistes, réconfortants, réfléchis, résolus, respectueux, responsables, sages, sensibles, sérieux, serviables, sincères, sociables? Sommes-nous soigneux, solides, souples, souriants, stables, studieux, sympathiques, tendres, tolérants, tranquilles, travailleurs, vaillants, valeureux, vigilants, vrais? Vous allez peut-être trouver ces listes un peu longues, mais en les dressant, j'ai pensé vous fournir de quoi travailler à votre salut, avec crainte et tremblement, mais aussi avec zèle et joie et foi. Toutes ces qualités se trouvent quelque part dans la Bible, même si elles sont parfois décrites avec d'autres qualificatifs. Elles sont résumées dans les 10 commandements. Dans le sermon sur la montagne, dans 1 Corinthiens 13, le chapitre sur la charité, et dans Galates 5 également. Reportons-nous à Galates 5, Galates 5, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22. Rappelez-vous que l'objectif pour nous maintenant, c'est d'éliminer le péché de nos vies et de le remplacer par la sainteté, de le remplacer par quelque chose de très spécial. Laissez le Saint-Esprit entrer en nous. Nous avons besoin donc d'éliminer tous ces défauts, ces péchés, et puis remplacer cela. On ne laisse pas le vide, il faut remplacer cela par de bonnes choses, par des qualités. Galates 5, 22, il y a un résumé qui est donné ici. Vous n'avez pas tout qui est mentionné ici, mais il y a un résumé en quelque sorte. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et c'est ce que nous faisons. Comment cela peut-il être accompli? Par la mise en application du symbolisme de la fête suivante dans le plan divin, la Pentecôte, qui symbolise la descente du Saint-Esprit pour les prémices. Pour le monde entier, pas encore, mais pour les prémices, l'avant-garde, la petite moisson, les pionniers en quelque sorte dans le plan divin de salut. La deuxième phase de notre parcours est donc l'obtention d'une puissance merveilleuse et extraordinaire qui nous permet d'éliminer progressivement le péché, le levain spirituel. Cette puissance merveilleuse, c'est le Saint-Esprit. La grande différence entre l'ancien Israël et nous, frères et sœurs, c'est que l'ancien Israël effectuait un parcours uniquement physique, géographique, pourrait-on dire, tandis que nous, nous effectuerons un parcours spirituel. Une question importante à nous poser alors que nous terminons la fête des pains sans levain 2017 est la suivante. Vais-je demeurer sous la grâce ? Vais-je demeurer sous la grâce ? Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2 et le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Allons-nous pratiquer ces choses ? Allons-nous renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines ? Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce parce que, premièrement, notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ nous aiment, d'un amour qu'il est difficile de concevoir. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3 et le verset 16. Je répète que nous sommes sous la grâce, premièrement parce que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ nous aiment d'un amour extraordinaire, si profond qu'il en est inimaginable. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle qui est l'élimination totale du péché pour la sainteté. On abandonne le péché et on devient des temples saints de l'Éternel et on est rempli du Saint-Esprit, la perfection. C'est notre destinée. Certes, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore parfaits, c'est un peu frustrant parfois, mais c'est notre destinée et nous y arrivons, nous y arrivons. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes sous la grâce parce que, deuxièmement, notre Père Céleste veut que nous soyons sauvés. Et il veut que tous soient sauvés. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Quand on voit le mal autour de nous aujourd'hui, quelquefois on a du mal à imaginer que certaines personnes puissent être sauvées, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu souhaite que le maximum des êtres humains soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 et le verset 3. 1 Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, c'est presque inimaginable. Mais c'est cela que Dieu veut, c'est cela que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ veulent. Que le maximum d'êtres humains soient sauvés. Et un jour, ils auront leur chance. Heureusement, aujourd'hui, ils sont plongés dans l'endurcissement. Ils ne comprennent pas. La plupart du temps, ce qu'ils font, ils ne le comprennent pas. Ils vivent instinctivement. Ils se rendent pas compte que simplement ils essayent de satisfaire leur nature humaine, et pour eux, ce qu'ils font, c'est instinctif, c'est naturel. Un jour, lorsque leur esprit sera ouvert, ils se rendront compte, et ça sera merveilleux, ça sera formidable. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est son désir le plus profond. Et Christ est mort même pour les migrants, même pour les musulmans, qui partent dans une autre direction. Qui sont séduits pour les extrémistes. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Vous savez, nous ne sommes pas innocents non plus. L'Occident n'est pas innocent non plus. Dieu a une sagesse différente de la nôtre. Mais Christ est mort pour tous les pécheurs. N'oublions pas cela. Nous avons un Dieu d'amour qui est plein de miséricorde. Et troisièmement, nous sommes sous la grâce parce que notre Père Céleste nous a appelés. Notre Père Céleste nous a appelés. Jean chapitre 6, verset 44. Après nous avoir appelés ou amenés au repentir, il nous a appelés. Ou en quelque sorte, c'est le même processus, vous pourrez dire. Il nous a appelés, il nous a dirigés vers le repentir et il nous a appelés. Tout ça, ça se tient finalement. Mais Jean 6, 44, un verset clé très important que le christianisme traditionnel ne comprend pas ou ne pratique pas. On s'imagine qu'aujourd'hui, on peut essayer de sauver le monde entier. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. Et le verset 65, il répète la même chose, pour bien montrer que c'est important. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'a été donné par le Père, ne lui a été donné par le Père. Nous sommes sous la grâce, quatrièmement, parce que nous nous sommes sincèrement repentis de nos péchés. Il est bon de nous rappeler ces choses. Alors que cette fête des pains sans levain 2017 s'achève, de nous rappeler notre cheminement jusqu'à présent et ce qui reste encore à faire, le chemin qu'il reste encore à faire. Nous nous sommes sincèrement repentis de nos péchés. Marc 16, 16 dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Mais il a fallu un miracle divin pour que nous nous repentions. Romains chapitre 2, verset 1. Romains chapitre 2 et le verset 1. Cela ne venait même pas de nous. Un beau jour, nous n'avons pas décidé simplement de nous repentir. Non, c'est Dieu qui a commencé à nous ouvrir l'esprit. Et cela aussi, c'est un miracle extraordinaire. Un jour, nous commençons à nous rendre compte de ce que nous sommes. C'est-à-dire des riens, franchement des petits riens. Ou des grands riens, comme vous voulez. Ô homme, qui que tu sois, Romains chapitre 2, verset 1, ô homme, qui tu sois, et puis il dit un certain nombre de choses, et après au verset 4, il dit, méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dieu est suffisamment bon pour nous pousser à nous repentir, c'est un miracle qu'il a effectué dans nos vies. Extraordinaire. Et alors, cinquièmement, nous nous sommes fait baptiser et nous avons reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38 nous dit, Pierre leur dit, rappelez-vous, la foule lui demandait, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Et Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du, ou pour le, je préfère, ou pour le pardon de vos péchés. J'estime la nouvelle traduction n'est pas aussi bonne. À cause du, non. C'est pour le péché, c'est plus direct, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous sommes sous la grâce, sixièmement, parce que nous nous sommes engagés à nous conformer en tout point à ce que nous a dit notre Père Céleste, notre Dieu d'amour. Matthieu 4, 4 est un verset clé auquel nous revenons souvent. Matthieu 4, 4. Un verset clé qui est si important que même Christ l'a cité pour Satan lors de la tentation. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cela notre destinée. C'est cela éliminer le levain de nos vies et le remplacer par la sainteté, par la perfection spirituelle, qui à nouveau prend du temps. Ça prend toute une vie dans la plupart des cas. Mais nous sommes sous la grâce parce que nous nous sommes engagés à faire cela, à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À honorer Dieu dans le temple que nous sommes. Car à nouveau, comme je le disais auparavant, d'après la Bible, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et septièmement, Christ est devenu notre merveilleux modèle. Il est devenu notre merveilleux modèle. Nous sommes sous la grâce parce que Christ est devenu notre merveilleux modèle. Galates chapitre 2, verset 20. Paul a dit quelque chose de significatif ici. Galates chapitre 2 et le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est cela éliminer le vin, le péché de nos vies et le remplacer par le Saint-Esprit. C'est cela, c'est de cela qu'il est question. Laisser Christ vivre dans nos vies. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 20. Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Un exemple. Christ est devenu notre modèle. Il nous a montré l'exemple. Lui qui était totalement innocent, qui n'avait jamais commis de mal, pas même un seul péché dans sa vie. Et pourtant, il a souffert, il a accepté de souffrir, nous laissant un exemple, non seulement pour nous racheter, mais aussi pour nous laisser un exemple, comme le dit Pierre ici, pour que vous suiviez ses traces, pour que vous fassiez la même chose. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et très miséricordieusement, pourrait-on dire. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, mort au péché, mort au levain, nous vivions dans la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Pourquoi la fête des pains sans levain? Éphésiens chapitre 4, verset 12. Éphésiens chapitre 4 et le verset 12. Comme vous le voyez, il y a un symbolisme extraordinaire dans cette fête des pains sans levain. Il y a plusieurs aspects de notre vie chrétienne qui sont impliqués dans cette fête des pains sans levain. C'est 7 jours des pains sans levain qui s'achève dans quelques heures maintenant, mais que nous venons de célébrer. Il est question ici du perfectionnement des saints. On commencera au milieu de la phrase ici, mais pourquoi la fête des pains sans levain, pourrait-on dire, Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes en train d'édifier le corps de Christ, qui est le temple de Dieu, qui est un temple spirituel, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà notre destinée, la stature parfaite de Christ. Un jour, vous et moi, nous allons devenir des esprits et nous ne pourrons plus pécher. Non seulement nous ne voudrons plus pécher, mais nous ne pourrons plus pécher. Extraordinaire. Oh, que j'ai hâte. Oh, que j'ai hâte que nous y soyons. Vous et moi, nous sommes donc en train d'édifier un temple. Hébreux chapitre 3, verset 4. Hébreux chapitre 3 et le verset 4. Hébreux 3, 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est lui l'architecte. L'architecte de nos vies, l'architecte de notre avenir, l'architecte de nos destinées extraordinaires, à nous les prémices. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, la maison de Dieu, et sa maison, c'est nous. Que c'est significatif, que c'est profond. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 20. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. C'est une analogie ici. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un, et nous pouvons changer cela, c'est intéressant parce que, lisez ce qui vient, nous pouvons changer cela. Si nous ne sommes pas des vases d'honneur, nous pouvons devenir des vases d'honneur. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est cela éliminer le péché, le levain de nos vies. Devenir des vases d'honneur, propres à toute bonne œuvre. Rappelons-nous que notre maison est un temple, un édifice sacré, dans lequel l'être le plus saint, le plus pur et le plus merveilleux de l'univers réside. Un temple est une maison. Un temple est un édifice. La fête des pains sans levain nous rappelle quel genre d'édifice nous devons bâtir. La fête des pains sans levain nous a rappelé notre ultime destinée. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Être saint, c'est être sans levain, d'où le puissant symbolisme de cette fête. En guise de conclusion, reportons-nous à 1 Pierre chapitre 2, verset 4. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 4. « 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. » Je vous souhaite à tous un excellent cheminement vers la prochaine étape, conscient de notre ultime destinée. Bon courage, au revoir et à bientôt.